Bonsoir à tous et bienvenue pour ce podcast spécial de Furia Liga. Nous sommes à 24 heures de la finale de la Ligue Europa qui opposera demain à Lyon l'Olympique de Marseille à l'Atlético de Madrid. Pour l'occasion, nous accueillons pas moins de 5 invités qui nous font l'amitié de partager leurs connaissances sur les deux clubs et leurs espoirs concernant cette finale franco-espagnole, la première depuis 2004. Ce soir, la joyeuse bande va tout casser chez toi. Marseillais et passionné de football, on le surnomme Jean-Claude Godin. Benjamin Bruchet, bonsoir.
Bonsoir.
Ça te va bien, je trouve, ce surnom.
Magnifique, magnifique. Ça change de podcast en podcast, c'est avec plaisir.
J'étais avec la barbe de Mitroglou, mais finalement. Tu vois. Notre Velvet Underground, Elias Baidi, va nous rejoindre tout à l'heure. Il a eu un petit contretemps, mais il sera là avec nous pour nous analyser tactiquement ce match. Je vous présente nos invités du soir. Il a joué à Levante et Malaga. Il commente notamment la Ligue Europa pour Bein Sport. Il était avec nous lors d'un de nos tout premiers podcasts, en août dernier. C'est un plaisir de le retrouver ce soir. Brahim Thiam, bonsoir.
Buenas tardes, señores y señoras, si hay señoras. Bonsoir, les amis.
Bonsoir, Brahim. Il a travaillé avec Javier Clemente à l'OM, recruteur en Espagne à Villarreal puis à Valencia. Antonio Salamanca, bonsoir.
Bonsoir, tout le monde.
Il est l'un des visages du compte Atleti France, mais il n'est pas encore arrivé, donc on l'attend incessamment. Jérémy Valère de Atleti France va nous parler de Diego Simeone, du cholismo et de plein d'autres choses autour de l'Atletico avant la finale de demain. Il est l'une des plus belles plumes du site FC Marseille, Mourad Hertz, bonsoir.
Salut les gars, salut. Si on le fait en espagnol, il faut me dire, hein, il me reste encore des notions de mes voyages en Amérique du Sud, donc... Podemos hacerlo, pero me falta practicarlo un poquito.
Vale, macho. Et enfin, il est le fondateur du site Tout le monde s'en fout et de Football United, Bastien Michel, bonsoir.
Bonsoir. Bon, moi, par contre, si on le fait en espagnol, je suis foutu. Donc, si on peut rester en français, ça m'arrange.
J'avais une très bonne vanne pour toi, mais je ne la ferai pas parce qu'elle n'est pas gentille.
Vas-y, fais-toi plaisir. J'accepte.
J'allais dire que pour la finale de demain, tu ne faisais pas de cheveux. Parce qu'on n'avait plus.
Effectivement. Mais ça va, sur la photo.
On va commencer avec le premier thème de la soirée, l'Atlético ultra favori de ce match. On va commencer avec nos deux spécialistes du foot espagnol sur le terrain, Brahim et Antonio. Comment vous voyez la composition du Cholo demain?
Honneur Antonio.
Merci Brahim. Quelle galanterie. Je pense pas que ça va changer. Ça va changer des derniers matchs qu'on a vus. Je pense que Cholo, il va chercher à mettre de la vitesse lorsqu'il va récupérer le ballon, à mon avis. Il va mettre ses deux défenseurs centraux loyens, parce que même si José Jiménez il a quitté l'entraînement l'autre jour, je pense que c'était plus par précaution qu'autre chose. Donc à mon sens, il va mettre ces deux Uruguayens-là qui vont bien verrouiller la boutique. Après, au milieu, je ne sais pas, Gabi reste indétrônable. Je pense qu'il va l'associer certainement à Thomas. Et il va faire jouer Koke avec Saoul. Et là-haut, il fera jouer les deux terreurs, surtout la terreur Costa et Griezmann. Quoi. À mon avis, il va faire ça.
Est-ce que vous voyez...
Vas-y François. On a perdu François. Je pense que moi, de mon côté, on peut imaginer un Saoul qui va peut-être être associé à Thomas au milieu, et peut-être Correa sur le côté s'il est apte.
C'est possible, mais moi Correa, je le crains énormément. C'est un super joueur, c'est un joueur qui va très très vite, c'est un joueur qui peut même aider dans les phases défensives quand il le faut, si le coach lui demande, et c'est un joueur qu'il faut dans les 30 derniers mètres, il est vraiment pas maladroit. Donc je dirais que ça serait peut-être pas une bonne surprise de le voir demain sur le terrain, quoi.
Ouais, il est plutôt,
je dirais, ça pour les supporters de l'OM, hein,
Donc il est en forme en ce moment, c'est vrai que c'est la dernière cartouche avec du feu dans les jambes du côté de la FFI, parce que c'est de ce profil-là, ils ne sont pas nombreux dans l'effectif du Cholo à avoir ce profil-là. Non. au départ de Montpellier à Carrasco cet hiver. Donc c'est vrai que ça peut être une cartouche intéressante pour Simeone à voir s'il le met d'entrée ou s'il va le faire entrer à la 60e pour piquer les dernières forces de l'OM, je ne sais pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est une des cartes que peut avoir Simeone avec Aurélien.
Brahim, je suis au-dessus de retour. Ben, tu peux me faire un résumé, s'il te plaît.
De Correa, et on s'est demandé si Gabi allait être titulaire au milieu ou si Saul allait être à côté de Thomas et Correa allait prendre le poste de la tête de Deli.
Ah d'accord, oui, Correa, je vois plus rentrer en fin de match, personnel. Je pense qu'il va aligner quand même au moins 9 joueurs sur 11 qu'il avait contre Getafe. Et est-ce que vous voyez Coquet jouer dans une position aussi avancée?
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, peut-être?
Ouais, moi je vais dire non, je pense pas que le dispositif qu'on a vu contre. Ouais.
C'est Elias qui est arrivé. Mais tu peux y aller, bref, t'inquiète.
Ah ouais. Non, je disais le dispositif avec Partey devant la défense et Coquet quasiment numéro 10. Je suis convaincu que c'est pas ce qu'on verra mercredi, parce que c'est pas non plus ce qu'a l'habitude de faire l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il a mis en place quelque chose dans l'idée d'avoir une attitude avec le ballon, mais à ce moment-là, je vois pas ce que le Coquet pourrait faire là. Je vois bien, c'est vrai, à Thomas, et je rejoins aussi ce que disait Antonio. Pour moi, Correa est un joueur très intéressant, très dangereux. Même balle au pied, peut-être plus dangereux que ce que pourrait faire un Diego Costa en partant d'un peu plus loin, au-delà d'avoir Griezmann à côté de lui. Donc, Gabi, Coquet, Saoul, ça, évidemment, seront sur le terrain. L'animation défensive, je pense pas qu'il va révolutionner un jour de finale Cholo Simeone. Donc, on va rester dans le traditionnel, on va dire à 95%. Donc, après, l'inconnu, ce serait de savoir un petit peu Correa, pas Correa, voir Thomas, bon, ce sera vraisemblablement sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que ce milieu de terrain va être la clé de cette finale pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'autre. C'est pour ça que côté marseillais, on verra quel sera le milieu aligné par Rudy Garcia, mais on sait qu'il va falloir être très costaud, être très présent dans l'impact, dans les duels, et puis surtout bien utiliser le ballon, ce que savent très bien faire les Madrilènes, notamment lorsqu'ils récupèrent. On a vu des images contre Getafe, avec beaucoup de densité au milieu de terrain, récupération, on éclate très très vite vers l'avant, donc ça nous donnera vraisemblablement un match assez ouvert, parce que les Marseillais ne sont pas une équipe qu'on a l'habitude de la possession de la balle. Donc, mais il va bien falloir que quelqu'un prenne le ballon. On ne va pas se regarder jouer au chien à la souris. Donc, ça va nous donner des indications déjà avec les compositions qui sortiront.
Si je peux me permettre une petite question. Donc, le losange, c'est une option que vous écartez. Parce que donc moi, je ne suis pas trop l'Atlético, mais j'ai entendu beaucoup parler de cette option losange. Il me semble qu'il l'a utilisée sur l'un des derniers matchs de championnat, non, au milieu Simeone.
Oui, contre Getafe, oui.
Mais ce n'est pas quelque chose qui vous semble plausible pour demain.
C'est possible, mais pas avec Coquet dans le rôle du soutien des deux attaquants. Voilà. Tu peux avoir d'autres joueurs, évidemment. Mais je n'ai pas eu l'occasion de suivre les conférences de presse d'avant, d'après-match. Mais j'aurais aimé savoir pourquoi il a positionné ce dispositif et ce joueur-là à cet endroit. Il y a forcément une raison. Est-ce qu'il ne prévoit pas un dispositif comme ça, justement, pour habituer à l'équipe sur le plan tactique, sans que ce soit Coquet qui joue à ce poste-là, par exemple?
Oui, parce que contre Getafe, c'était un peu… Il y avait beaucoup de… Contre un système qui était en face, qui était un 4-4-2, avec pas mal de pression, qui a joué assez haut. Il y a eu pas mal de pertes de balles du milieu de terrain, un peu de nervosité. Et je trouve aussi que Diego Costa participe très, très peu au jeu, notamment au jeu défensif. C'est un peu bizarre, et surtout il cherche souvent première intention Coquet, notamment Savic sur ses relances plein axe, c'est ce qui amène le but d'ailleurs, mais c'est un peu prévisible en fait, et surtout qu'en face Getafe n'avait pas son milieu titulaire Arambari Vergara, donc c'était un peu particulier. Je m'attendais à un 0, évidemment c'est un match athlétique, mais pas dans le contenu comme ça, alors que nous rejoint Jérémy Valère d'Atleti France. Salut à toi. Tu peux couper ta cam si tu veux. Justement, on parle du jeu de l'Atletico pour demain. Mm-hmm. Est-ce que tu as été surpris par le système en, en 4-3-1-2 qu'il a proposé contre le Reta pour la dernière grande répétition générale avant la finale.
Oui, c'est vrai que c'était assez surprenant parce que c'est pas une composition qu'on a l'habitude de voir du côté de l'Atlético. Mais après, je sais pas, moi je serais surpris de voir cette composition demain. Après, à voir si c'est préparé, s'il y a une intention derrière. Moi, je serais surpris, honnêtement.
Après, on connaissait un peu le Cholo, je pense que s'il a essayé ça contre Retafe à cette période-là de la saison, c'est pas anodin, je pense. Je pense que, est-ce que ça va être le système de départ? Je pense pas. Mais ça, je pense que ça peut peut-être changer comme 100 millions pour le jeu, avoir un référent offensif peut-être un peu plus haut. Un milieu qui va beaucoup bouger, il va y avoir beaucoup de compensations. On sait que la Toro vont de plus en plus haut côté athlétique parce qu'en face, les ailiers ne peuvent pas faire. Je pense que voilà, va y avoir beaucoup de changements et essayer ça maintenant, c'est pas pour rien, c'est pas anodin.
Tandis que nous accueillons notre Suisse de Foria Liga, quelque part entre Robert Louis Dreyfus et Fabio Celestini, et Las Bailif. Bonsoir à toi.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Toi, tu es un peu notre expert tactique à Foria Liga quand même. Donc, on compte sur toi pour nous éclairer. Personnellement, j'étais assez surpris de la présence de Juan Fran. Est-ce que vous voyez Juan Fran ou Grijalko en latéral droit demain? Moi, je pense qu'il mettra le croate, mais.
Moi aussi, je pense qu'il mettra le croate également.
Ouais, je pense pareil, c'est celui qui a le plus enchaîné. C'est le plus intéressant malgré sa bévue et sa sortie prématurée face à Arsenal. C'est quand même un bon profil et il apporte autant offensivement que défensivement. Donc ça serait surprenant de s'en priver.
Ben moi, je ne suis pas objectif avec lui, je l'adore. Vas-y, Antonio.
Je pense que défensivement, je pense qu'il apportera plus que Juan Fran. Il est beaucoup plus dur, il est meilleur dans les duels. Donc, à mon avis, ça sera beaucoup plus intéressant pour le Cholo de l'avoir sur le terrain que de le laisser sur le côté, là, sur le banc de touche plutôt.
Et puis il va avoir en face de lui Ocampos qui est un bon client aussi en termes d'état d'esprit, exactement, de combativité. Donc, sachant que Philippe Louis est un latéral aussi quand même porté vers l'avant. Donc, je pense que c'est une option un peu plus sécuritaire défensivement. Et moi, je suis d'accord.
Ouais. Sachant que si je peux me permettre.
Il va y avoir des beaux duels hein, sur les côtés hein, demain. Ouais. Parce que Ocampos. Avec le croate, ça va faire des étincelles, à mon avis. Puis de l'autre côté aussi, ça risque d'être quand même pas mal. Hein.
Ouais.
Ça sera peut-être moins physique, peut-être de l'autre côté, mais ça sera beaucoup plus technique et beaucoup plus artistique, mais ça sera quand même pas mal aussi. Hein.
Ouais,
en sachant aussi que l'OM attaque vraiment principalement, et c'est assez représentatif au niveau des chiffres, du côté droit. Donc si. Je pense que s'il y a un côté où il peut y avoir de la place pour le latéral de l'Atlético, ce sera plutôt donc sur le côté gauche de l'attaque de l'OM, même si ça, en fait c'est pas tout à fait vrai, parce que même si Ocampos rentre souvent dans l'axe, quand il faut défendre, il revient défendre. Mais en règle générale, l'OM, le côté fort de l'OM, c'est clairement le côté droit, et c'est clairement par le côté droit que demain on va essayer de passer.
Ouais, justement, l'Atlético a positionne souvent ses latéraux très très haut au niveau de la ligne médiane, notamment en première relance. Est-ce que ça peut être un défaut de cette équipe-là, c'est-à-dire être un peu prise de vitesse justement par la position trop avancée de Grijalko et de Philippe Louis?
Moi, je ne crois pas personnellement, parce que c'est une question de réussir sa relance ou pas. Toutes les équipes font ça en Europe. Pour autant qu'elles arrivent à réussir leur relance. Ensuite, ça dépend comment tu agences ta relance, ça dépend quel joueur tu décides d'incorporer dans cette première phase du jeu. Mais si tu réussis ta relance, ça fait que tu peux ensuite trouver ces latéraux dans des positions bénéfiques à l'équipe. Tu peux gagner des mètres grâce à eux. Par contre, si tu la loupes, c'est clair que les espaces sont énormes, mais un coach, il ne va pas imaginer une relance en partant du principe qu'il va la louper. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est assez commun dans les équipes qui cherchent à repartir depuis l'arrière, je ne dis pas que c'est une équipe qui fait tout le temps ça, mais c'est une idée générale un peu de ces équipes qui veulent repartir depuis l'arrière. Ce n'est pas un inconvénient pour moi. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être problématique de base comme ça.
Ouais, mais ils perdent beaucoup de ballons, je trouve. Enfin, en tout cas, sur les derniers matchs, je trouve qu'ils avaient perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Les connexions avec l'attaque se font assez moyennement, je trouve. C'est pour ça, en fait. Tu peux récupérer des possibilités, des ballons contre assez haut sur la ligne des 35 mètres.
Après, on peut aussi se dire que l'Atleti est un peu n'est pas super concerné par sa Liga. Elle est quasiment elle est finie depuis assez longtemps. Ils sont en Ligue des Champions assez assurément depuis un bail. Ils ont gardé la forme. Et c'était la Liga, c'était vraiment un rendez-vous quotidien, mais ils n'ont jamais mis vraiment d'application cette saison, en tout cas depuis 2-3 mois. Donc même ils ont perdu contre l'Espagnol il n'y a pas longtemps. Là, contre Retafe, ce n'était pas encore un grand match de leur part. Et voilà, on l'a vu contre Arsenal où ils ont énormément souffert, et notamment à l'aller où Arsenal a eu un bon nombre incalculable d'occasions. Mais voilà, l'Atleti a su faire bloc, n'a pas fait réellement d'erreur, et à part Griezmann sur le but. Mais sinon, c'est une équipe qui fait corps, et que même si ça prend l'eau, et même s'il y aura des remous, il y aura des pertes de balles, il y a toujours un joueur qui va avoir un dépassement, qui va essayer de sauver la. Et gommer l'erreur. On a notamment à Thomas qui fait vraiment bien le chewing-gum au milieu et qui arrive à bien compenser les montées, les descentes. Il est vraiment très bon dans ce côté-là. Donc, je ne vois pas vraiment une erreur là-dessus parce que Polo prévoit ça et fait ce qu'il faut pour que même s'il y a une erreur, qu'il y a quelqu'un qui compense et que ça soit gommé, que ça soit pas létal, quoi.
Il y a énormément de solidarité dans l'équipe. Énormément. Énormément. Et donc, je suis d'accord avec toi.
Il va falloir qu'une équipe à un moment donné prenne l'initiative. Peut-être que ce ne sera pas le cas dans tout le match. On va sûrement voir des changements, des moments forts pour les deux équipes. Mais l'Atlético, à partir du moment où ils sont sous pression, ils ne vont pas trop se poser de questions. Soit ils s'en sortent et ils balancent devant quand il faut. Soit alors, on a vu contre Arsenal, ils ont cette capacité, notamment avec Thomas parfois, qui peut vraiment. Par ses conduites de balle, casser des lignes et se sortir de situations assez compliquées, mais même ensuite, on voit le talent de Saul ou Koke qui peut parler. Quand ils sont sous pression, ils ont cette capacité à sortir le ballon assez proprement et à s'ouvrir des espaces derrière. Et si c'est eux qui doivent prendre l'initiative et ils voient qu'au bout de quelques minutes, ils sont acculés, ils n'arrivent pas à s'en sortir proprement, ils ne vont pas insister outre mesure et ils vont changer leur plan de jeu, ils vont s'adapter durant le match. Donc, j'imagine pas l'Atlético souffrir inutilement en relance. J'imagine que si ça ne se passe pas comme ils prévoient, ils vont sans problème changer leur plan de jeu ou passer au plan B ou au plan C.
Bah, d'autant plus que le pressing haut, c'est un petit peu ce qu'a fait la force de Marseille en Coupe d'Europe et notamment contre Leipzig et contre Salzbourg, notamment au match aller. C'est un petit peu ce qui a permis à l'OM de rester dans cette compétition et de mettre le danger. C'est qu'à partir du moment où l'OM laisse jouer ses adversaires, on est beaucoup plus en difficulté, on l'a vu au retour contre Salzbourg. Par contre, dès qu'il faut mettre la pression, dès qu'il faut étouffer les adversaires et mettre du rythme, bah, c'est là qu'on est dangereux.
Avant de clôturer cette première partie du podcast, il y a un joueur dont on parle beaucoup de l'attaque, Costa Griezmann, qui fait peur, évidemment. Mais finalement, on parle encore très peu de Yann Oblak, qui est pour moi le facteur X de cette finale. Parce qu'il est, depuis qu'il est à l'Atlético, il est exceptionnel. Jérémy, peut-être ? Et toi, tu observes depuis tous les matchs attentivement. Comment ça se fait ? J'ai l'impression qu'il est toujours un peu sous-côté, ce gardien. En fait. Il est moins mis en valeur alors qu'il a encore été sa moelle cette année.
C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais il est juste, il est juste monstrueux, ce gardien. C'est impressionnant. Moi, déjà, je me souviens de Thibaut Courtois, on en faisait des éloges. Il était adulé, mais là, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. C'est impressionnant. Il nous sort de situation assez souvent. Il fait souvent les arrêts qu'il faut au bon moment et des arrêts inimaginables. C'est incroyable.
Et puis sur penalty, c'est le premier gardien qui sort le plus de penalty en Ligue 1. Il a encore sorti un contre Retafe. En plus. Bah, Retafe, c'est aussi l'équipe qui en loupe le plus. Donc c'est la rencontre des deux extrêmes. Mais c'est
exactement.
Il le sort bien d'ailleurs parce qu'il faut aller.
Faut aller chercher.
La main est ferme. Ouais.
Non, c'est impressionnant. De toute façon, il faut un bon gardien. L'Atlético, il avait la meilleure défense d'Europe, mais c'est aussi notamment grâce à Yann Oblak.
Ouais, mais c'est surtout ce qu'il transmet, ce gardien. Une sérénité incroyable, parce que c'est vrai qu'il est serein, il a une confiance en lui qui est vraiment aussi top. Après, dans les moments décisifs, il a toujours été là, des arrêts incroyables. Mmh. Donc, je pense qu'au niveau confiance pour l'équipe, c'est un atout énorme, énorme, énorme.
C'est intéressant ce mot « sérénité » parce que le fait pour moi qu'il puisse apporter cette sérénité, ça part d'un principe qu'on ne voit pas chez tous les gardiens, mais chez Oblak, c'est impressionnant. Académiquement, c'est très, très propre. Il est toujours bien placé, Il arrive à anticiper au fil de l'action où il va se placer et c'est pas le propre de tous les gardiens. Si vous prenez un David De Gea, par exemple, c'est quelqu'un qui compense, même s'il a progressé, il compense énormément avec ses jambes. Yann Oblak, il a cette capacité à toujours pouvoir faire l'arrêt de manière propre. Toujours pouvoir faire l'arrêt qui va rassurer son équipe. Et il fait des miracles, mais il fait des miracles parce qu'auparavant, dans l'action, il y a un travail de sa part qui a été fait. Et quand vous avez un gardien comme ça qui va faire les arrêts proprement quand il faut, qui va dégager les ballons dans des zones où il n'y a pas un adversaire qui traînera quand il va pas accorder des rebonds dangereux pour l'attaquant qui va les chercher, et ben vous avez un gardien qui vous change une équipe parce que vous savez qu'il va faire les miracles et que quand il faudra faire les arrêts en apparence simple, ils seront faits proprement.
Et puis c'est Yann Oblak, il fait partie simplement des 5-6 grands maximum meilleurs gardiens du monde actuellement. C'est elle est très simple l'histoire. Avec les De Gea, les Courtois, les Neuer, il est là. Et d'ailleurs, le prochain roulement de gardien, il va en faire partie. Ça, c'est une certitude. Tout à l'heure, je sais pas qui disait, on parle pas beaucoup de lui. Bah, tant mieux. Ça veut dire qu'il défraie pas la chronique et qu'il se déchire pas. Et derrière, il est performant. Et après, les puristes de la Liga ou les puristes du football en général, qui suivent les matchs, qui ont suivi certains des matchs de l'Atlético, Yann Oblak, c'est la sécurité sociale. Et contrairement à Donnarumma, dont tout le monde parle, mais moi, Donnarumma, comme j'ai dit la dernière fois, comparé à Oblak, c'est le jour et la nuit. Il est très, 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 très loin du haut niveau, ce gardien-là. Donc, forcément, en plus, devant toi,
si je dispose d'une grosse enveloppe, si demain je dispose d'une grosse enveloppe, je suis un club et je vais choisir entre Donnarumma et Oblak, il n'y a pas photo.
C'est une certitude.
On va refermer. Vas-y, Charlie.
Non, j'allais dire oui. Puis autour de lui, disons que quand on a un gardien comme ça derrière et qu'on est défenseur, il y a une confiance qui s'installe. Et quand on sait que la confiance dans le football, c'est ultra important. Voilà, quand on a un gardien comme ça derrière nous, je pense qu'on a plus confiance en soi, plus confiance en nos partenaires, et forcément tout va mieux. Quoi. Oui. On va